Et maintenant, vous êtes avec les chants du crépuscule. Pendant une heure et demie, un lundi soir par mois, les chants du crépuscule vous font plonger dans des extraits sonores, souvent des musiques populaires. Une coproduction en compagnie des rêves lucides avec Radio Campus Paris. Est-il juste de dire que la musique est un langage universel? Peut-être de manière métaphorique, mais jusqu'à quel point? Outre le fait que la musique n'est pas un système de signes permettant la communication, tel que le langage, de quelle manière peut-on prétendre à ce que la musique soit universelle? Il serait peut-être plus prudent de parler de musique au pluriel, chacune d'entre elles orientée par ses fonctions sociales, parfois esthétiques, certes, mais souvent différentes. Étant donné que les musiques, au pluriel, sont faites avec des intentions variées, elles méritent aussi d'être écoutées chacune de manière adaptée. Et pour ce qui est de la musique ethnique, il se peut que la musique dite classique puisse en être considérée une, car la musique savante occidentale est aussi contextualisée, reflétant de la sorte une période et des esthétiques dominantes au sein d'une communauté, d'un peuple. Bien qu'au chant du crépuscule, la musique ne sera pas considérée comme étant un langage universel, nous allons essayer d'apporter un regard transversal aux extraits sonores choisis à travers la contextualisation et la réflexivité. Pour cela, nous accueillerons des spécialistes passionnés de tout parcours pour orienter notre oui. Ils et elles sont des musiciens, chercheurs, producteurs, amateurs, enseignants, étudiants, etc. Ce sont des émissions d'une heure et demie où le protagoniste n'est ni l'invité, ni l'intervieweur, mais plutôt la musique elle-même. Moi, c'est Carlos, doctorant en ethnomusicologie, et je rédige une thèse sur la viola campanissa, un luth à cordes doubles en acier, joué essentiellement en Alentejo, une des régions du sud du Portugal. Et il s'agit bien de l'instrument qui accompagne les voix polyphoniques que nous écoutons actuellement. Puisque les chants du crépuscule est un spin-off des voix du crépuscule, qui est une mensuelle sur Radio Campus Paris dédiée à l'anthropologie et aux sciences humaines et sociales, pour moi il était logique d'inviter le fondateur de cette émission, le sociologue Émile Gayoso. Pour le rencontrer, je suis allé à l'école normale supérieure, au 29 rue d'Ulm, au 5e arrondissement de Paris. Émile y tient un poste temporaire en tant que chargé d'études en humanité numérique. Ayant soutenu sa thèse en 2015 et habitué à la précarité du métier, comme la plupart des jeunes docteurs en sciences sociales, il déguste actuellement le privilège de développer des recherches dans une institution scientifique. En parallèle à ses activités académiques, ce jeune chercheur est également devenu danseur professionnel et professeur de tango argentin. Mais pour comprendre sa relation et son investissement sur ce genre musical, il faut déjà comprendre ce que c'est que le tango.
Le tango, si on pouvait le résumer à une expression, ce serait peut-être celle de dos por cuatro, deux par quatre. C'est le nom de la radio nationale de tango en Argentine, dos por cuatro. Et ça dit, en fait, la structure rythmique du tango, qui est une structure assez simple, c'est celle de l'alternance entre un temps fort et un temps faible. C'est une musique où on peut faire poum, pam, poum, pam, poum, pam. Les poum, ce sont les temps forts, les pam, ce sont les temps faibles. C'est une musique qui est une danse. Il y a des débats entre historiens pour savoir si la musique est venue avant la danse ou la danse avant la musique. En tout cas, les deux ont fini par être indissociables. Et ça vient du Rio de la Plata. C'est à cheval entre deux pays, l'Uruguay et l'Argentine. Et sa période de gestation, c'est la deuxième moitié du 19e siècle, c'est-à-dire un moment où convergent différents mouvements de population. L'immigration italienne, à Buenos Aires surtout, l'immigration de l'intérieur, l'exode rural que l'Argentine connaît aussi, avec les villes tentaculaires qui absorbent les campagnes, et la présence aussi de communautés afro-caribéennes amenées par l'esclavage en fait au Brésil, en Argentine, en Uruguay, et qui ont joué un rôle important et méconnu dans la construction de cette culture. C'était en 2005, en fait, quand je suis arrivé à Paris. Comme tout bon étudiant, j'ai logé là où je pouvais. Et en l'occurrence, c'était chez ma grand-mère, à Porte de la Chapelle, dans le quartier où j'habite encore aujourd'hui. Et dans la discothèque de ma grand-mère, il y avait un disque de l'ensemble Artango. C'est l'ensemble qu'on vient d'entendre. On vient d'entendre Danse Immobile, une des pistes de cet album qui s'appelle Double Jeu de l'ensemble Artango, ensemble qui a disparu. Et d'ailleurs, j'ai une pensée particulière pour Jacques Trupin, le bandoneoniste, qui a disparu en début d'année. Mais c'est cet album-là qui a été un déclic pour moi. Donc ça a été un déclic musical. J'aimais déjà beaucoup le flamenco. Je savais que ça pouvait se danser, mais ça me semblait inaccessible. Moi, j'avais fait toujours du sport, du foot, du tennis. J'avais jamais fait de danse. Et j'ai entendu cette musique nerveuse, intense, sensuelle, J'arrivais à Paris, j'étais seul, j'avais envie de vivre des choses intenses, nerveuses, sensuelles. Je me suis dit, il faut que je danse là-dessus. Et j'ai cherché mon premier cours de tango. C'était rue Chapon, dans le 3e arrondissement, à Arts et Métiers, dans une académie de danse qui s'appelle Salle Sabor, qui existe encore aujourd'hui, et dans laquelle j'ai donné des cours juste avant le Covid, 12 ans après. J'ai donné des cours de tango, donc c'était assez drôle de revenir là après... Voilà, avoir fait tout un parcours, être passé par l'Espagne, etc. Et revenir pour donner une année de cours. Hein. C'était juste avant le Covid, mais j'étais content d'y retourner. C'était avec un vieux professeur, qui est devenu une figure du tango argentin en France. C'est Orlando Cocodias. Et c'était pas facile de passer de ce cours à la milonga. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et c'était pas facile non plus de passer du style de musique qui m'avait amené au tango, c'est-à-dire cet ensemble art tango qui compose de la musique extrêmement riche, extrêmement intense, dans la lignée de Piazzolla en réalité, et arriver dans le monde du tango dansé, s'apercevoir que ce sont des tangos qui au premier abord paraissent beaucoup plus pépères, beaucoup moins expressifs, qui sont des vieux enregistrements grésillants avec des chanteurs à voix nasillarde, et se dire mais j'ai pas signé pour ça, moi je veux du Piazzolla, je veux de l'électro-tango. Et en fait, on fait tous les danseurs de tango qui ont tenu leur vocation, font le même voyage. Ils partent de Piazzolla, ils partent de Gotan Project, et ils arrivent finalement dans le vieux tango grésillant, et ils sont très contents d'y être. Mais ça demande du temps. Alors, c'est un morceau qui s'appelle Bahía Blanca, du nom de la ville éponyme argentine. C'est un morceau qui date de 1957 et qui est composition et une orchestration de Carlos Di Sarli, aussi appelé El Señor del Tango, un des grands compositeurs et chefs d'orchestre du tango dansé. C'est intéressant de l'écouter juste après Danse Immobile de Art Tango, parce qu'on a deux univers tellement différents. Et on pourrait se dire, il y en a un, c'est le tango d'aujourd'hui, c'est le tango qui doit vraiment faire vibrer les danseurs d'aujourd'hui, c'est le premier, le deuxième, c'est du tango vieillot, on fait un peu de l'archéologie, on se retourne en arrière, on dit, on vient de là, mais on n'est plus touché par ça. Et c'est pas vrai. En réalité, quand on danse, la plupart des danseurs sont très sensibles à cette musique. Et il faut comprendre pourquoi. Carlos Di Sarli, c'est vraiment, parmi les compositeurs de tango, celui qui incarne la musique au service de la danse, avec ses phrases de 8 temps forts, toujours extrêmement régulières, ses transitions marquées au piano. Entre chaque phrase, on sait qu'il y a le piano de Di Sarli qui va arriver, il nous montre le chemin vers la phrase suivante. Cette alternance entre les violons lyriques et le bandoneon rythmique. Vraiment, c'est le compositeur qui prend le danseur par la main. C'est pour ça que Carlos Di Sarli est aussi populaire dans la milonga. C'est pour ça que Carlos Di Sarli est aussi populaire dans les cours pour débutants. Si on nous fait des trémolos, de l'écriture polyphonique dans tous les sens, on sort de la piste, on s'assoit dans le fauteuil et on fait la danse immobile que tous les mélomanes font quand ils ferment les yeux et ils plongent dans une musique. Mais danser dans un bal, c'est quelque chose de, avec quelqu'un, en gérant l'espace, en gérant la musique, gérant les pieds, c'est quelque chose d'une complexité inouïe. Et pour que cette complexité soit appréhendable par le couple, il faut simplifier énormément la communication avec la musique. Tous ces mouvements un peu virtuoses comme voilà, les saccadas, en particulier les saccadas arrière, les patadas et les dégagés de jambes ont été particulièrement développés à ce moment-là. Il faudrait voir si c'est vraiment l'électro-tango qui a poussé à ça. On peut penser que oui, on peut penser que ça a joué son rôle, mais c'est une vraie question de recherche pour le coup.
C'est avec le chant du Crépuscule sur Radio Campus Paris.
L'électro-tango, pour le dire simplement, c'est la convergence entre la musique électronique, l'essor des DJ dans les années 90 et le tango argentin. Ça s'est fait à travers plusieurs groupes emblématiques. Il y a Gotan Project, bien sûr. Il y a eu Bajo Fondo, il y a Otros Aires, il y a aussi Narco Tango, Electrocutango et j'en oublie. Ça vient dans un moment où le tango est en train d'essayer de renaître de ses cendres. Il faut savoir que jusque dans les années 50, le tango c'est vraiment la musique reine de Buenos Aires, pas de toute l'Argentine. Le tango a jamais été la culture nationale argentine. On danse beaucoup plus le folklore argentin dans toutes les villes et villages d'Argentine que le tango. Le tango, c'est quelque chose de très urbain, de très citadin, de très porteño, vraiment centré sur Buenos Aires et sur Montevideo, de l'autre côté du Rio de la Plata. Et donc, à partir des années 60 et jusqu'aux années 80, pendant toute la période des dictatures militaires en Argentine, et pendant toute la période du déferlement du rock et de la pop sur le monde, le tango a connu un véritable déclin, au point qu'il n'y avait plus que quelques orchestres qui jouaient dans la ville, alors que pendant la période d'or, ce qu'on appelait l'âge d'or du tango, dans les années 40 et jusqu'à la moitié des années 50, il pouvait y avoir 1000 orchestres par jour dans toute la ville. Il y a eu véritablement un effondrement. Cet effondrement, il s'est passé sur le plan de la musique, mais aussi sur le plan de la danse. Les deux vont ensemble. Et puis, dans les années 80, il y a eu la fin de la dictature en 83, il y a eu le spectacle Tango Argentino qui venait comme éclore après cette période sombre et qui a triomphé au Châtelet et a vraiment renouvelé l'intérêt du public, en particulier du public français, mais le spectacle a tourné dans le monde entier, du public en général, pour cette culture et pour cette danse. L'électro-tango arrive comme un élément de plus dans cette recherche de renouveau et de nouveauté pour le tango. Ça a eu le grand avantage de faire venir beaucoup de jeunes, des jeunes qui, voilà, qui aimaient le rock, qui aimaient l'électro et qui trouvaient que le tango était vieillot, avec des groupes comme Gotan, Bajo Fondo, Otros Aires. Eh bien, ils disaient « Ah bah tiens, c'est pas mal en fait, le tango, ça peut se laisser écouter en prenant des cocktails au bar, etc. »
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur, como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur.
C'est l'épreuve du bal. Le bal, c'est une centrale énergétique de la culture du tango. On y va, tout le monde est là. Dans les meilleurs, il y a des musiciens en direct. Il y a de l'alcool, il y a les codes du bal, codes bien particuliers, les conversations avec tout le monde, les rencontres, les démonstrations des maîtres, des maestros. C'est un condensé de toute la culture du tango. Et en même temps, c'est dur de se hisser soi à l'énergie, au niveau de disponibilité, d'intensité, pour vivre bien le bal, pour être avenant, être attentif aux autres, discuter avec ses amis et en même temps toujours un œil ouvert aux invitations, à la mirada, au regard qui est là pour s'offrir à la danse qui pourrait venir. D'ailleurs, c'est quelque chose de très spécifique au bal. La conversation perd toujours face à la danse. Vous avez un petit groupe de 3-4 personnes qui discutent, une mirada qui s'incruste, qui s'infiltre dans ce petit groupe de quelqu'un qui vient de l'autre bout de la pièce. Si une des 4 personnes regarde, établit cette mirada, eh bien, elle va partir et elle va danser, même au milieu de la phrase. Ça arrive souvent. Ça peut être un sujet de dispute, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile de savoir vivre le bal.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur. Llevo el sur, te quiero sur, te quiero sur.
La musique est composée par Astor Piazzolla, qui est certainement le musicien le plus important du XXe siècle pour le tango, tout simplement. Le chant est assuré par Roberto Goyeneche, un des plus grands chanteurs de l'histoire du tango. Et les paroles ont été écrites par Fernando Solanas, Pino Solanas, qui a d'abord été un cinéaste, militant contre la dictature, qui a été exilé à Paris d'ailleurs, qui a finalement fait une carrière politique, mais c'est quelqu'un qui avait une vraie plume, une sensibilité d'écrivain. Il était cinéaste, mais il aurait pu être écrivain, comme beaucoup de cinéastes d'ailleurs. Et les paroles sont absolument magnifiques, c'est un poème ce tango. Donc moi j'étais en Espagne, j'avais découvert le tango il y a 2-3 ans auparavant. Je n'étais pas encore entré dans la danse. Une chose est de savoir faire des pas, de savoir faire quelques figures, et une autre est être capable de vivre une milonga. La milonga, c'est le bal du tango. C'est là où socialement se vit le tango. Et pendant ma première année à Paris, j'étais pas capable de sortir en milonga. Pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons psychologiques. J'étais pas très bien. J'étais un peu un étudiant neurasthénique qui errait, flottait à la surface de la ville. J'allais beaucoup au cinéma, je lisais énormément, je faisais des études un petit peu en dilettante, des études de physique. J'avais pas réussi à pénétrer dans le tango. Je n'étais pas sorti de l'année. À Madrid, j'avais réussi, mais je sentais qu'il y avait tellement de barrières qui m'empêchaient d'entrer dans la danse que c'était encore un rêve pour moi de danser. En particulier, une des barrières, c'est une barrière psychique, sensorielle, c'est que je perdais mes moyens dans les bras d'une femme. Je n'y arrivais plus à être moi-même. Et c'est un problème quand on danse le tango enlacé. Donc la première condition pour pouvoir danser, c'est de rester soi-même dans les bras de quelqu'un d'autre. De ne pas être pris par des crises de tachycardie, de ne pas sentir la sueur qui perle sur le front, de ne pas paniquer. Et moi, pendant des années, en fait, je n'arrivais pas à être moi-même. Et comme c'est suffisamment difficile d'écouter le rythme, de proposer des mouvements, de gérer l'espace du bal, eh bien, moi, je n'arrivais tout simplement pas à sortir en bal.
Todo el mundo está esperando mejorar su situación. Todos viven suspirando con razón o sin razón. Todo el mundo se lamenta si en las buenas ya no está. Nadie aguanta la tormenta si la contra se le da. La vida es una milonga y hay que saberla bailar. Que en la pista está sobrando el que pierde su compás. La vida es una milonga y hay que saberla bailar. Porque es triste estar sentado mientras bailan los demás.
Alors c'est une milonga pour le coup. Dans le tango, on danse le tango, mais aussi la milonga, une autre forme de danse, de musique, comme ce qu'on vient d'entendre, plus sautillante, souvent avec des tempos plus rapides, mais ce n'est pas qu'une histoire de tempo. Et on danse aussi la valse tango. Donc ça, c'était une milonga. Et la milonga, c'est très important, c'est la milonga qui a donné son nom à l'espace de sociabilité du tango. La milonga. C'est l'air de la campagne qu'on respire dans la milonga. C'est ce qui doit le plus aux pachadores, des chanteurs improvisateurs de la campagne argentine, de la pampa. C'est le genre qui est le plus enraciné dans la terre argentine, on va dire, la milonga. Le tango, il dit « La vie est une milonga et il faut savoir la danser. » C'est triste de rester assis et de voir les autres danser. Il se trouve que, depuis 15 ans, je vis une partie de ma vie affective et relationnelle à travers le tango, et que maintenant c'est tellement constitutif de ma personnalité, de ma sensibilité, que je ne vois pas qu'il puisse en être autrement. Et à un moment dans mon parcours, je me suis dit cette phrase-là, je vais me la faire tatouer sur la peau. J'avais déjà prévu de me faire un tatouage depuis quelques mois. Il se trouve que j'étais dans une relation assez tourmentée avec quelqu'un, et tout un tas de facteurs ont cristallisé dans cette décision, mais c'est vrai que j'ai eu envie de un peu sceller mon union avec le tango en écrivant ça dans ma peau. Et c'est vrai que je l'ai mis dans mon cou, donc ça démarre en dessous de l'oreille. La vida es una milonga, la vie est une milonga. Et ensuite, ça continue sur l'épaule, c'est caché. Il y a une partie extime et une partie intime. La partie sur l'épaule, c'est « y hay que saberla bailar », et il faut savoir la danser. Et j'avais aussi, je crois, envie et besoin à ce moment-là d'affirmer vis-à-vis du monde, vis-à-vis de mon monde professionnel, de ma famille, que bah, une partie de mon identité, c'était ça. Voilà.
La abandonné y no sabía de que la estaba queriendo y desde que ella se fue siento truncada mi fe que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba y hoy que la vengo a buscar ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? Amasado entre oro y plata, de serenatas y de fandango, acunado entre los sones de bandoneones, nació este tango. Nació por verme sufrir en este horrible vivir donde agoniza mi suerte. Cuando lo escucho al sonar, cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte. Y es por eso que esta noche siento el reproche del corazón. La abandoné y no sabía de que la estaba queriendo. Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía, el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor?
Alors c'est vrai que ce tango, il est original. Parce qu'il y a la voix de El Chino Laborde, qui est un grand chanteur contemporain de tango, qui a été le chanteur d'un orchestre, la Orquesta Fernández Fierro, qui a porté aussi le renouveau du tango dans les années 90, à sa façon. Et donc, sa voix, lui, qui commence seul, c'est rarissime dans le tango, puisque dans le tango dansé, la tradition veut que l'orchestre joue pendant une minute trente, seul, et le chanteur arrive tardivement.
Sombra quedo con mi ilusión. La abandoné y no sabía de que la estaba queriendo. Desde que ella se fue, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor?
Et c'est vrai qu'il est doublement original parce que c'est aussi un tango qui est accompagné à la guitare. Et ça, depuis le temps de Gardel, on n'en entend plus beaucoup. Ce n'est pas du tout la formation dominante. Une raison qui est souvent donnée, c'est que quand le tango est devenu la danse populaire qui permettait de nourrir des balles de plusieurs centaines, voire des milliers de personnes, il fallait sonoriser l'espace, et que la guitare n'était pas forcément l'instrument le plus adapté. Et le bandoneon, donc qui est une forme d'accordéon inventée par les Allemands, je ne sais plus qui en est l'inventeur exactement, mais le bandoneon a traversé l'Atlantique et s'est imposé comme l'instrument roi des orchestres. Et donc, quels sont les instruments du tango? Aujourd'hui, on peut dire que c'est d'abord le bandoneon, le piano, le violon, la contrebasse, la voix. Ça, c'est des instruments qu'on a dans ce qu'on appelle la orquesta típica, l'orchestre typique du tango, et le violoncelle aussi. Après, en réalité, les 50 dernières années, l'apport de Piazzolla, l'apport de l'électro-tango, l'apport de la Fernandez Fierro et d'orchestres parisiens, comme on va le voir, montrent qu'en réalité, on peut aussi avoir une batterie dans un groupe de tango, on peut avoir des platines, on peut avoir des cordes, des cuivres. Il y a aussi le Sexteto Fantasma qui joue avec des cuivres, c'est très bien. Tout est possible. Et donc on entend à nouveau un tango de Carlos Di Sarli, mais le premier qu'on a entendu, Bahia Blanca, était instrumental. Celui-là, il est chanté. Là, l'introduction a été courte. Bien souvent, elle est plus longue. Elle dépasse la minute. Illustration de ce que je viens de dire à l'instant, le chanteur ne commence pas tout de suite. Il commence maintenant. En el andén, la tarde que para ti ya te juré, volveré, espérame. Pasado muchos años y esa tarde está lejana, muchachita provinciana, tu buen amor lo he perdido en Buenos Aires, se me extravió en el laberinto de sus calles. Y es por eso que te escribo esta carta en que te pido que perdones mi traición. Adiós. Novia provinciana, adiós. Cualquier mañana cuando vayas a rezar por nuestro amor, murmura una oración de paz. Adiós, mi novia provinciana, adiós. Ce qui marche bien, c'est que Di Sarli a des violons très lyriques et la voix d'Argentino Ledesma, elle est sucrée, elle est lyrique, elle accompagne très bien le phrasé lyrique qu'il y a dans ce tango. Qui s'appelle « Mi novia provinciana », « Ma fiancée provinciale », et qui raconte les adieux sur un quai de gare d'un homme qui part à la ville, à Buenos Aires, et qui laisse sa fiancée provinciale. Y no cambian el camino, es casi heroica tu paciencia femenina, y yo comprendo tu amargura pueblerina. Muchachita enamorada, que solita, que olvidada, te dejó mi gratitud. Adiós, mi novia provinciana, adiós. Junto al arroyo donde está el sauce dolor, arroja el anillo que
vous êtes avec les chants du crépuscule sur Radio Campus Paris.
C'est un peu comme en football. Je vais prendre une métaphore que les Argentins aimeront, mais si on voit jouer quelqu'un comme Lionel Messi, qu'est-ce que Lionel Messi fait de mieux que les autres? En fait, il ne fait pas des dribbles dans tous les sens et des choses assez virtuoses. Il fait les choses essentielles du football, c'est-à-dire la conduite de balle, la passe et le tir, mieux que n'importe qui. Mais son jeu est très simple. C'est de la conduite de balle, avec des crochets, des passes et des tirs. Mais Carlos Di Sarli, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il fait les choses les plus simples du tango. Il fait jouer ensemble les violons sur une phrase. Il fait une transition avec son piano. Il marque les temps forts avec le bandoneon. Mais avec une telle élégance, avec un tel équilibre entre les différents groupes instrumentaux, que c'est une merveille.
Donc, il est un peu le messie du tango.
On l'appelle El Señor del Tango. C'est son surnom.
Génial.
Ce tango, il m'évoque la Russie. Le premier voyage à l'étranger que j'ai fait pour le tango, c'était en 2018. C'était à Khabarovsk, à l'autre bout de la planète, à 6 jours de train de Moscou, en Russie extrême-orientale. C'est l'arrêt juste avant Vladivostok du Transsibérien. Juste avant, c'est-à-dire un jour avant. Et donc, j'étais parti avec une danseuse argentine d'origine ukrainienne, je crois, Carolina Udovico. Et on préparait un spectacle qui s'appelait Che Tango Amigo, construit par Alan Forte. Et dans ce spectacle, on devait danser sur Danzarin, ce morceau-là. Dans la dernière partie du tango, qu'on appelle de façon générique la variation. C'est le moment où ça s'accélère. Ça commence là. Ça, c'est le moment virtuose pour les danseurs. J'étais en contrat, pour le coup, là, oui, avec le ministère de l'enseignement supérieur et j'avais des réunions tous les mois. Et il y avait une réunion où je devais présenter un travail pile pendant le séjour en Russie. Je me suis demandé avant le départ, est-ce que je joue franc jeu ? Est-ce que je dis à mon responsable que je danse le tango, que je serai en Russie ? Et au départ, je n'ai pas eu le courage de l'assumer. Donc, je suis parti sans demander mon reste. Je suis parti, je n'ai rien dit à personne. Et puis, donc, j'avais mon ordi avec moi, je préparais cette réunion où je devais présenter des travaux sur l'évolution de l'édition scientifique en sciences humaines et sociales avec la numérisation pour suivre l'impact de l'adoption d'une loi en 2016, la loi pour la République numérique. Et j'avais juste dit que je présenterais en visio, mais je n'avais pas dit depuis où. Et en fait, c'était depuis la Russie, donc il y a un décalage horaire quand même conséquent, je ne sais plus si c'était 7 heures ou 8 heures. Et en fait, plus le temps avançait, plus j'étais pris par le côté absurde de cette situation. J'allais dans les balles du festival de Khabarovsk avec mon ordinateur, je laissais l'ordinateur dans les coulisses, je dansais, je retournais dans les vestiaires, je travaillais un petit peu sur mon ordi. Et à un moment, je me suis dit, mais arrête, c'est débile. Sois vraiment là où tu es. Là, tu es là pour danser, tu le dis.
et voilà. Présente la situation à ton responsable. Donc, j'ai présenté la situation à mon responsable, pas pour lui dire je ne serai pas à la réunion, pour lui dire, en fait, voilà, sachez que, en réalité, je suis en Russie, je ne suis pas tout à fait disponible. Et là où j'ai été très surpris, c'est qu'en fait, il m'a dit, ah, mais c'est très bien, ça, d'avoir une activité artistique qui vous passionne. Moi, je joue de la clarinette et ça compte beaucoup pour moi. Et donc, ça a complètement dédramatisé le truc. J'ai pu profiter de la fin du festival sans avoir à me soucier de mon ordi et à passer des planches au clavier. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on l'imagine qui sont contents d'accueillir ces activités. Mais on a beau être content, si la structure, l'institution n'est pas prête et n'est pas modelée pour ça, en fait, la tolérance individuelle ne peut pas grand-chose. S'échapper de son bureau, on est un petit peu dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, évalué aux résultats, évalué aux publications, et en dehors du temps de présence obligatoire, impondérable, qui est celui face aux enseignants, eh bien, on a quand même une grande souplesse de gestion de l'emploi du temps, et moi, plus le temps a passé, plus j'ai utilisé cette souplesse de gestion de l'emploi du temps pour aller répéter, pour aller pratiquer. D'entendre une ébauche de Milonga de ma part, effectivement, que j'ai composé pendant le confinement sur mon piano synthé là. Et parce que, bon, malgré le fait que j'ai réussi à continuer à danser, parce que je me suis organisé pour, alors pendant le premier confinement, j'étais confiné avec une danseuse, donc je pouvais pratiquer avec elle, mais pendant le deuxième confinement, j'étais seul. Et là, c'était celui de novembre 2020. Là, heureusement, les répétitions étaient autorisées, donc on pouvait maintenir les répétitions, mais tous les bals étaient fermés et ça ne suffisait pas. Mais c'est là que j'ai commencé à programmer, enfin, j'ai commencé à rencontrer en ligne une danseuse qui allait devenir ma partenaire actuelle, Sofia Kelleria. Donc je passais beaucoup de temps chez moi, comme tout le monde. Je me suis dit que j'allais occuper une partie de ce temps à remettre au piano, vraiment. Et j'avais un peu perdu le lien avec cet instrument. Et donc, le fait d'y passer 2 à 3 heures par jour, je m'étais imposé un peu comme rituel de confinement, d'enregistrer tous les jours un morceau, quel qu'il soit. Un truc que j'improvise, un truc que je compose, mais j'enregistre. J'ai vraiment eu la sensation de renouer avec l'instrument, renouer avec le piano, alors que pendant 10 ans, depuis mon arrivée à Paris, même 15 ans, j'avais perdu le contact avec lui. Donc le deuxième confinement, et le premier avait un peu préparé le terrain, m'a remis au piano et je suis très content de ça. Et en sortant du deuxième confinement, je suis allé voir Pablo Mujier. Et comme c'est un ami, je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais me donner des cours ? J'arriverai avec du matériau, parce que moi, je ne joue pas beaucoup avec partition, j'improvise et je compose un peu. Donc j'arrive avec des propositions et tu me dis comment est-ce qu'on pourrait améliorer... Voilà, l'aspect rythmique, la construction du morceau, l'harmonie, qui m'a un peu donné les rudiments de la milonga. Et avec ces rudiments, j'ai fabriqué cette esquisse. J'aimerais bien pouvoir m'accompagner en disant des textes. Ça, j'aimerais bien. mais c'est, bizarrement, ce n'est pas un objectif que je travaille. Pablo m'avait proposé d'enregistrer, il m'a dit on va enregistrer plusieurs morceaux, il faudrait que tu sélectionnes 3-4, on les travaille bien. Et ça, ben ça, ça devrait être un objectif, il faudrait que j'en fasse un objectif. Il faut faire un détour par l'Estonie. Là, vous entendez la version du presto d'Antonio Vivaldi, du presto des quatre saisons de Gidon Kremer, le violoniste Gidon Kremer, et de son orchestre. Et Gidon Kremer s'est beaucoup intéressé au tango et il a enregistré un album qui s'appelle Eight Seasons, 8 saisons, dans lequel il intercale les quatre saisons de Vivaldi et les quatre saisons porteñas de Piazzolla, parce que Piazzolla a écrit les quatre saisons vers son tango. Donc il y a Otoño Porteño, Verano Porteño, Invierno Porteño et Primavera Porteña, le printemps. Et Ariane Liotto, la chorégraphe de Tango Art, quand elle a entendu cet album, et donc elle a entendu cet album, elle a adoré, elle a dit « moi je veux chorégraphier ça ». Donc le premier spectacle de la compagnie Tango Art s'appelle « Seasons » et est une adaptation de cet album, c'est-à-dire le mélange Piazzolla-Vivaldi. Dans l'histoire de ce spectacle, on est trois couples. Pourquoi trois couples sur quatre saisons, vous me direz. Ah, c'est comme ça. Et chaque couple incarne une saison, sauf le printemps. Le printemps appartient à tous. Il n'est pas en propre. Mais Sme Page, ma partenaire et moi-même, on incarnait l'été. Et donc on dansait sur le presto. Donc oui, tout commence de façon assez tonitruante avec Verano Porteño. Et ensuite, Esme et moi sortons de scène. Et moi, je vais re-rentrer sur le début de ce presto avec une valise un peu éperdue. Le public ne le sait pas, mais nous, on le sait. Dans cette valise, il y a une lettre d'amour. Et cette lettre, c'est une lettre de rupture. Et je porte avec moi ma rupture. Donc, je ne suis pas disponible parce que je suis encore tout à cette rupture. Je suis un peu ravagé, errant, et Esme, elle est derrière, elle me voit, je l'intrigue, elle veut nouer un lien avec moi. Et comment faire? Elle ne sait pas trop, je suis inaccessible, je ne suis pas ouvert au dialogue et à la discussion. Et en fait, elle va s'apercevoir que le seul moyen de nouer un lien avec moi, c'est de me toucher par ce qui me touche. Et qu'est-ce qui me touche? C'est ma valise, puisque dans cette valise, il y a la lettre de rupture. Et donc, elle va jouer avec cette valise, elle va me la prendre, cette valise. Mais forcément, ce n'est pas la meilleure entrée en matière qui soit, puisque moi, je suis tout à cette valise. Donc, si on me prend cette valise, je sors de mes gonds, je m'énerve. Et donc, va s'en suivre une danse extrêmement tourmentée, violente, on peut dire, sur ce presto, où on oublie la valise, on oublie tout. Esme et moi, on te prend à bras-le-corps et on danse de façon... un peu animal, la musique de Vivaldi. Mais finalement, elle s'y prête. Et c'est ça que j'ai appris en dansant ce spectacle, c'est que Vivaldi est d'une modernité. Enfin, c'est un poncif de le dire maintenant, mais c'est impressionnant. Vivaldi, on peut l'écouter comme on écoute musique de rock, et on peut l'écouter aussi comme on écoute un tango, et le danser comme ça.
Thank you.
c'est vrai que j'ai construit une chorégraphie sur ce morceau parce que d'abord, j'adore ce morceau. C'est vraiment une de mes principales découvertes musicales de ces dernières années. C'est un morceau des Milonguitas, l'ensemble de Pablo Mujier, composé par son bandoneoniste, Simone Tolomeo, qui a une histoire super, un ingénieur reconverti au tango qui a tout abandonné. Il avait son diplôme d'ingénieur, il a tout abandonné pour devenir bandoneoniste et il est devenu non seulement un excellent bandoneoniste, mais un compositeur. Il nous propose ce merveilleux tango Rosa y Negro qui est à la fois puissant, lyrique. On reconnaît l'influence de Pugliese, c'est l'influence de Troilo. Il est hyper expressif, il a été composé ici à Paris. Pour moi, c'est extrêmement précieux. C'est vrai que je l'ai écouté ces dernières années, je l'ai beaucoup écouté. Et puis quand on a décidé avec Sofia Kellaria de travailler ensemble, on s'est dit on va en proposer une chorégraphie. On avait un casting à passer en plus pour le Théâtre du Châtelet, ils demandaient une chorégraphie, c'était l'occasion, on a choisi ce morceau-là.
Vous êtes avec les chants du crépuscule sur Radio France Paris. Ah,
c'est sur Radio
Campus
Paris.
Il y a dit Radio France. Mais je suis vraiment exprès.
Composition de Pablo Gignoli, extrait de l'album Alimentation Générale, composé à Paris, par un Argentin en exil, on peut dire, avec son ensemble Taxi Tango 21, qui fait du tango bien parisien, bien urbain, qui pulse, qui raconte la vie qu'on mène quand on vit à Paris, qui parle voilà, d'alimentation générale. Et la couverture de l'album, c'est une épicerie. Alors je sais pas pourquoi il s'appelle Comida Lenta Slow Food. Il y a un morceau qui s'appelle Big Mac. Pablo adore les jeux de mots un peu surréalistes. Ça doit être effectivement une volonté de dire, bon, il y en a marre des fast-food, de courir dans tous les sens. On peut pas se poser un peu. Ce morceau, il installe un rythme. On a l'impression d'être un peu sur des rails. Quelque chose qui avance inexorablement. Thank you. Ariane Lyoto, la chorégraphe de la compagnie dans laquelle je danse, a construit à partir de ce morceau l'idée de tout un spectacle qui serait fait que de trios. Et ce spectacle a vu le jour, il existe maintenant, il s'appelle Tres, trois, tout simplement. Donc moi, je danse la première chorégraphie avec deux super danseurs, Karim El Touki, le compagnon d'Ariane, et Anne Fomber. Et on l'a dansé des dizaines et des dizaines de fois maintenant. C'est le morceau, quand on doit faire un spectacle ensemble, qu'on a le moins besoin de répéter, tellement il est ancré en nous. Et pendant toute la chorégraphie, on est censé être dans un métro et on entre en relation, mais sans vraiment le pouvoir. Anne passe un peu des bras de Karim aux miens, mais je danse aussi avec Karim. Karim danse avec Anne, je danse avec elle. Et ce que le tango dit, c'est la difficulté dans la vie citadine d'être entier dans l'espace public, d'être soi-même avec sa sensibilité. La plupart du temps, on est conduit à porter un masque un peu plus froid que ce qu'on est vraiment. Comme le disait Zimmel, l'intensité de la vie nerveuse est si grande dans le métro, dans les transports, dans les espaces publics, qu'on se blinde et on se rend un peu insensible aux autres. Et tout part de cette insensibilité. Et malgré tout, malgré ces masques, vont se nouer des interactions entre les trois danseurs qui donnent quelque chose de touchant, je trouve. Mais les masques ne tombent jamais. On reste des anonymes qui passons par ce trio.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Amórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
Gracias. Gracias. Uno retorna siempre realmente al lugar donde posiblemente ha sido feliz,
On revient toujours au lieu où on a été heureux, où on a traversé l'enfance, l'adolescence, où il semblait que les rêves étaient intacts. Et les choses simples, le temps les dévore et elles demandent. Elle espère que ce ne soit pas toujours ainsi, puisque la chanson dit que l'amour est une chose simple et que donc le temps le dévore. Non, c'est, voilà, c'est la seule chanson avec le presto de Vivaldi qui n'est pas un tango. Je ne sais pas exactement quel est le genre musical, mais je dirais que c'est de la trova latino-americana, c'est-à-dire le genre le plus populaire dans toute l'Amérique latine, qu'on retrouve de Cuba à l'Argentine en passant par le Mexique. C'est piano, guitare-voix, des ballades où les paroles ont un sens très fort, où on doit pouvoir suivre le message des paroles. Donc Silvio Rodriguez à Cuba, Fernando Delgadillo au Mexique, Mercedes Sosa ou Atahualpa Yupanqui en Argentine, ils représentent ce genre que j'aimerais bien voir un peu plus présent dans les milongas. Et c'est pour ça qu'avec Sofia, on a décidé de chorégraphier cette chanson, la canción de las simples cosas, en empruntant tantôt au langage du tango, tantôt au langage de la milonga, et puis en s'autorisant aussi des mouvements plus libres venus du folklore. Et on fait ça avec beaucoup de plaisir parce que c'est un peu, oui, c'est un peu original. On sort un peu des sentiers battus et parce que ça nous permet de faire aussi un trio avec son compagnon Sébastien Rossi, qui est le chanteur de l'orchestre Silbando, qui est un chanteur et qui a dans son répertoire cette chanson. On est sur scène avec lui et on danse finalement dans un trio où il y a la guitare et la voix de Sébastien au milieu et Sofia et moi à la danse. Donc là, on entend un tango de Osvaldo Pugliese avec Abel Córdoba à la voix. Un tango qui s'appelle Tu angustia y mi dolor, ton angoisse et ma douleur.
Como pedirle a tu rosal que no te brinde rosas, ¿quién puede acaso silenciar al ave melodiosa, como a la fuente suplicar, que no te diga cosas? Eso es pedirle al corazón que dé por muerta esta pasión que alienta en cada palpitar. No, no puede ser lo que me pides. No, ¿cómo es posible que te olvide? ¿Quién quiere apartarte de mi vida? Adivine algo extraño en nuestra despedida. Iluminada vi que tú llorabas apenada y mi pobre sombra enamorada lloró tu angustia y mi apenada y mi pobre sombra enamorada solo tu angustia y mi
Vous êtes avec les Chants du Crépuscule sur Radio Campus Paris.
Pendant une période, on revient toujours à un morceau, il s'incruste en nous. On a besoin de l'écouter des fois, des dizaines de fois dans une journée. Et on le remet toujours quand on danse. Et au bout d'un moment, ça y est, il est passé. Il est en nous, il est là. Alors soit, parfois, on s'en est un peu écœuré. Il va falloir attendre un peu de temps avant qu'on l'écoute. Soit, c'est pas ça. Et la plupart du temps, à titre personnel, c'est pas ça. C'est juste que c'est comme si ça y est, il était vraiment entré. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas ce qui se cache derrière ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que se constitue la sensibilité musicale, la sensibilité d'un danseur. C'est des moments où il y a une pondération particulière qui est faite. Ce n'est pas le tout d'avoir un grand nombre d'ingrédients dans son tango, dans sa musique. Il y en a, ils ont une importance particulière. Il y a une pondération forte. Le centre de gravité, il tend vers eux. Et bien, ces morceaux-là, moi, finalement, il y en aurait quoi ? Quelques dizaines, des morceaux comme ça que je pourrais concaténer sur 15 ans. Eh bien, ces morceaux-là, ils ont joué un grand rôle dans la fabrication de nos sensibilités. Et je trouve que c'est important d'en avoir conscience. Alors, on est dans les jardins Tino Rossi, dans une petite alvéole derrière le sol pleureur, où les gens viennent danser le tango pendant la belle saison. C'est quoi la belle saison ? La belle saison, ça commence fin mai, début juin, jusqu'à la mi-septembre. On entend un enregistrement grésillant de Osvaldo Fresedo qui s'intitule La Isla de Capri, l'île de Capri, et qui nous transporte dans les années 30 de Buenos Aires, à une époque où la bonne société porteña commence à se saisir de cette culture qui est née des bas-fonds, mais qui, ayant été adoubée par Paris outre-Atlantique, peut devenir légitime même en Argentine. Alors, comme dans toute bonne milonga, même si c'est une milonga de plein air, il y a un sens du bal. Le sens du bal, c'est qu'on tourne sur sa ligne. Il y a souvent plusieurs lignes en cercle, mais comme un petit peu des coureurs autour d'une piste d'athlétisme, on doit respecter son couloir. Et donc là, il y a combien de couples ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couples. Des personnes, on va dire, plutôt quinquagénaires, sexagénaires, hein, on va pas se mentir, c'est pas une population de jeunots. Il y a quand même quelques... Ouais, un couple de jeunes, s'approche de la trentaine. Puis une jeune femme qui danse, comme souvent, avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Et donc, tous ces couples tournent dans le sens anti-horaire, sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils se sont engagés l'un envers l'autre, non pas pour la vie, mais pour une tanda. Quand on invite pour une tanda, une série de morceaux. Une série de morceaux qui compte généralement 3 ou 4 tangos, ou 3 ou 4 valses, 3 ou 4 milongas. Ça a l'air de rien cet endroit, mais énormément de gens ont connu le tango à Paris, au hasard d'une promenade sur les quais de Seine, en voyant des gens danser. Donc c'est un espace de recrutement. C'est important pour nous, les profs de tango, c'est important qu'il y en ait. Ouais. Évidemment, on vient avec ses chaussures de tango ici. Ou des chaussures de pratique, pour celles qui ont mal aux pieds. Tout le monde n'a pas envie de mettre des talons de 9 cm. Là, on a une dame qui met des chaussures de pratique. Particulièrement kitsch. Mais en tango, on s'autorise le kitsch, il n'y a aucun problème. Il n'y a qu'à écouter la musique. Voilà. Et même les cortinas. Là, on entend une cortina, c'est-à-dire un rideau. C'est-à-dire la musique qu'on met pour balayer la piste tous les 3-4 morceaux pour que chacun danse un peu avec tout le monde. Pour que les couples se déforment et puissent se reformer. D'abord par le regard, la mirada. Il faut que les deux protagonistes, l'homme et la femme, établissent un contact visuel de quelques secondes Et une fois que ce contact est établi, l'homme fait un signe de tête, le cabeceo, qui valide la mirada. Mais tout est déjà joué dans la mirada. C'est le contact visuel qui compte. Donc on dit souvent l'homme invite. C'est un peu faux. En réalité, c'est les deux qui s'invitent par la mirada. Si la femme ne veut pas être invitée, elle n'est pas invitée. Et très vite, alors il faut faire attention, il faut être assez rapide, parce que pendant le premier tango, les miradas fusent un peu partout. Et si on laisse passer le coche, il n'y a plus de danseurs et de danseuses à inviter, on se retrouve tout seul. Donc là, tu vois, ça fait 30 secondes que la nouvelle tanda a commencé, et ça y est, les danseurs sont déjà sur la piste. Donc ceux qui n'ont pas trouvé de partenaire, ils vont avoir plus de mal à finir la tanda en dansant. Donc là, on a changé d'univers musical. On est encore dans du tango, mais on est dans le tango de Juan D'Arienzo, beaucoup plus, avec des accents beaucoup plus nerveux, beaucoup plus marqués. Tandis qu'avec Fresedo, on était dans un tango plus lyrique, plus élégant, plus doux. Et normalement, ça se voit dans la danse. La façon de marquer les temps forts, elle doit être plus aiguisée. Bon, ça, c'est pas toujours facile de le déceler hein, dans les mouvements des danseurs. On va regarder un peu le couple qui passe juste devant nous. Donc une dame qui a mis son masque à son poignet, qui a gardé ses lunettes de soleil parce que, bon, voilà, c'est l'été, le soir tombe, mais il y a encore pas mal de soleil. Et son partenaire, il marche sur le temps, lui fait faire des petits 8 sur le côté, changement de poids, des pas avant déboîtés, 3. Mais globalement, il reste dans une marche qu'on pourrait dire, je pense, de façon assez objective, un petit peu trop molle pour la musique. Et là, qu'est-ce qui se passe en face de nous? On a un couple de jeunes. Alors eux, ils sont complètement en suspension, une interprétation musicale intéressante, parce que là, ils dansent... bon, là, maintenant, il est revenu sur le temps, mais il dansait sur deux temps, juste avant. Hop, il a fait tourner la danseuse autour de lui. Il la place en 8. Ah, il s'arrête, il tourne maintenant autour d'elle dans une calesita, ce qu'on appelle un mouvement de calesita, c'est-à-dire comme un manège. Et il repart dans un tour autour de lui. Il fait croiser la danseuse, un petit 8 dans son couloir. Pivot sur place. Il joue avec les pivots, il entre en saccada. Et il fait ça avec infiniment de précautions, ce qui fait qu'il sort un petit peu de la musique. Parce que je pense qu'il... il a envie d'essayer tout un tas de mouvements et qu'il sent que c'est un petit peu fragile. Et donc, il se dit, bon, on va faire avec ce qu'on a et tant pis pour la musique. C'est souvent ça le problème des danseurs, hein, c'est que si on fait passer le corps avant la musique, eh bien, voilà. Entre chaque tango, on a le droit de s'accorder un peu de conversation. Et donc, les couples se séparent momentanément pendant quelques dizaines de secondes. Selon la qualité de la conversation, la pause peut durer presque une minute, deux minutes. Il paraît qu'en Argentine, ça dure vraiment longtemps. Et puis en gros, pendant la moitié du tango, tu discutes. Ce qui n'empêche pas de bien danser, par ailleurs. Et là, à gauche, on a un couple expérimenté avec la dame avec les chaussures violettes. On sent que c'est fluide. La base du tango, c'est la marche, une danse de marche. Simplement arriver à indiquer à sa partenaire le pas arrière qu'on veut faire. Ça a l'air de rien, mais contrairement à la vie réelle, on ne peut pas marcher en envoyant ses jambes sans se soucier de l'autre. On est d'abord obligé de communiquer l'information. Et donc ça oblige à quelque chose de pas naturel, mais de penser à son centre de gravité d'abord et ensuite marcher. Et rien que ce petit ajustement, ça prend des années. À le faire. Regarde, il y a des bons danseurs, tu vois, là il y a deux bons danseurs l'un à côté de l'autre, l'un a des baskets, des Vans, et l'autre est en chaussures de danse avec des petits talons, des petites talonnettes, tu vois. Donc en extérieur, les règles s'assouplissent. Donc on peut pas non juger de la qualité d'un danseur au fait qu'il a un jean, un pantalon de danse ou bien des chaussures de ville ou des chaussures de danse. L'habit ne fait pas le moine. Thank you.
écoute en ce moment de la valse tango. La valse, c'est un peu la reine des danses à deux. C'est elle qui a consacré le couple comme le centre du bal. Avant, dans l'histoire, quand on allait au bal, on n'allait pas partager un moment d'intimité avec un inconnu. Ça n'existait pas. C'est la valse qui a mis ça au cœur du bal. Et là, pendant des dizaines de minutes, on danse avec un inconnu. On prend dans ses bras, on vit quelque chose de sensuel avec un inconnu. Ça, c'est la valse qui l'a installé. Et toutes les danses à deux, de la salsa au tango, en passant par la kizomba, etc., doivent quelque chose à la valse, sans même le savoir. Et donc, dans le tango, on a gardé la tradition de toujours danser des valses. Et ça a été digéré par la culture du tango, comme ça a été digéré par la culture du bal musette. Et il y a des valses tango, il y a des valses musette. Rythmiquement, c'est toujours ce rythme à trois temps. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà. Un temps fort et deux temps faibles. Et si vous êtes attentif, vous pouvez peut-être entendre que... on n'est pas tout seul, quoi. On danse pas que du tango dans les jardins Tino Rossi. On entend la pulsation des autres alvéoles où on danse certainement la salsa juste à côté, peut-être le lindy hop. Avant, il y avait du folk à droite, je sais pas s'il y a encore des danses trad. Enfin, voilà. Vous entendez aussi le blister, papier plastique, des pique-niques qui se font tout autour. Et là, bah, voilà, c'est la cortina et donc tout est permis, même la salsa.
Pour ce qui est de... mes vitrines ne sont pas très bien entretenues. Je sais qu'il faut avoir des vitrines aujourd'hui, mais je n'y passe pas souvent. J'ai quand même une chaîne YouTube. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Emile Gayoso, sur laquelle il y a quelques vidéos où on peut me voir danser. Il y a quelques vidéos pédagogiques aussi. Pour ce qui est des articles, eh bien, on peut les trouver sur les plateformes des éditeurs, essentiellement Cairn et Open Edition. J'ai un blog aussi sur lequel j'ai publié des textes. Ça, c'est plus pour la dimension littéraire, quelques textes de sciences sociales, mais peu. Sinon, pour me trouver, si les gens ont toujours envie, ils peuvent m'écrire, m'ajouter sur Facebook, ils tapent Emile Gayoso et ils me contactent comme ça, ou bien m'écrire à mon adresse dans les nuages, mon adresse dans le cloud, e.r.gayoso@gmail.com. Et oui, je fais partie de l'empire Google. Et ça reste encore le moyen le plus approfondi, je trouve, de s'écrire, de prendre contact avec quelqu'un.
Merci à Emile pour nous avoir ouvert son univers où le tango est fortement lié à son intimité. Pour clôturer cette émission, je tiens à remercier Nikita, Farah et Véronique qui ont contribué à la campagne de financement du studio mobile des Chants du Crépuscule. Je remercie aussi la talentueuse Imane qui a fait le logo de l'émission, la généreuse Eva pour la vérification des textes et les joyeux participants des virgules que nous entendons tout au long des Chants du Crépuscule. Ce sont Melinda, Madame Matteo, Baba Diomandé, Anis, Karim et Yacine. Pour les intéressés, la prochaine émission des Voix du Crépuscule aura lieu le 20 octobre. Et nous serons de retour ici, au Chant du Crépuscule, le 7 octobre, pour écouter les musiques portugaises qui ont été présentées à la Conférence mondiale d'ethnomusicologie à Lisbonne l'été dernier. D'ici là, la Compagnie des Rêves Lucides propose une séance de recrutement pour l'atelier de Cantalengen, c'est-à-dire le chant polyphonique du sud du Portugal. Vous trouverez les informations sur Facebook ou en nous écrivant à rêveslucides@hotmail.com. Pour les quelques minutes qui nous restent, je vous laisse avec un thème enregistré par l'ensemble vocal issu des ateliers de Cantalengen, le Rancho de Cantadores de Paris, en collaboration avec Uxucalhos, un groupe portugais de fusion de musique populaire avec des musiques urbaines. Le thème s'appelle Vai Colher a Silva, en français, Va cueillir la ronce. Merci, il y a dans 4 semaines.